crowd, I saw nothing of it then.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h06, bientôt 20h07, vous êtes toujours sur Radio G sur le 101.5 FM et tout de suite on va parler sport puisque c'est l'heure de Génération Sport, l'équipe est au complet aujourd'hui, Alex est avec nous, salut Alex, comment tu vas ce soir?
Salut Max, ça va très bien, avec ce match de l'équipe de France qui arrive très bientôt.
On aura l'occasion de l'évoquer. Et puis l'homme qui se cachera derrière la régie ce soir, eh ben, c'est le troisième mousquetaire, c'est Cédric qui est avec nous. Salut Cédric, comment tu vas?
Salut à tous, bah, écoute, ça va. On a eu petite semaine, j'irais, au niveau sport.
Ouais, petite semaine avec
petite
une trêve internationale.
Avec la trêve internationale, ouais.
Pour les Ducs et pour le foot, on aura l'occasion d'en parler. Et puis aujourd'hui, c'est une émission spéciale puisque c'est une émission en partenariat avec l'EAB. Et pour ce faire, on reçoit Karim Gourari ce soir. Bonsoir Karim, comment ça va?
Bonsoir, ça va super, merci.
On aura l'occasion de parler un petit peu avec toi plus tard dans l'émission. On va tout de suite commencer avec le traditionnel 1-2. Alex, je te fais la passe pour débuter.
Et oui, on va commencer avec le handball, de retour d'une trêve internationale tumultueuse dans laquelle son entraîneur Guillaume Dupin a été démis de ses fonctions. Le SCO s'apprêtait ce week-end à retrouver le chemin des parquets avec un tout nouveau coach à sa tête. Issam Tej, l'ancien pivot multiple champion de France avec Montpellier, a donc repris les rênes de l'équipe et disputait vendredi dernier à Jean Bouin son tout premier match en tant que numéro 1 sur un banc de Pro League. Face à de redoutables Dijonais, les SCOistes avaient fort à faire face à cette équipe de haut de tableau. Sans surprise, les Angevins ont pris l'eau très tôt dans la rencontre, auteur d'une première mi-temps très décevante, les partenaires de Williams Manebar repartaient au vestiaire avec un retard de 8 buts au tableau d'affichage. En seconde période, les locaux n'auront fait que limiter la casse dans ce qui devenait leur 7e défaite de la saison. Une déconvenue de plus, encaissée 35-25, qui enlise un peu plus le SCO dans la position de lanterne rouge de Pro League. En revanche, le large succès dijonnais permettait aux bourguignons de rester à leur place de dauphin du championnat. Côté Angers, le travail est encore long pour espérer obtenir le maintien en deuxième division. Le match de la semaine prochaine à Sarrebourg, concurrent direct dans la course en maintien, pourrait s'avérer décisif. Si l'identité du prochain entraîneur du SCO handball n'est pas encore connue, une chose est sûre, c'est que ce dernier aura fort à faire pour sortir le club de cette situation.
Allez, on va changer de ballon et de sport, on va continuer à parler du SCO, mais du SCO football. Alors oui, il y a une trêve internationale concernant le foot, mais ça ne va pas nous empêcher de rappeler le dernier résultat du SCO et le prochain match qui va arriver, le dernier match des Angevins. Du coup, c'était samedi 6 novembre dernier, il y a pile 10 jours, et c'était un déplacement à Lille chez les champions de France, et les Angevins ont réalisé un match nul, le score final 1 partout avec un but signé Azedine Ounaoui côté Angevin en toute fin de rencontre. Le Marocain marque ainsi son deuxième but cette saison. Et puis le prochain match, ce sera dimanche prochain, 21 novembre, avec la réception de Lorient. Si on vérifie le classement, Angers, qui avait fait un très très gros début de saison, se place actuellement à une 9e place, qui est plutôt convenable pour les Angevins.
On va enchaîner avec le basket. Ce fut pas un grand week-end pour les clubs du Maine-et-Loire. Dans un derby des Pays de la Loire qui les opposait à Challans, les joueurs de l'Étoile Angers Basket avaient rendez-vous en Vendée pour tenter de décrocher leur 11e victoire de la saison en championnat. Malheureusement, ce 11e succès devra attendre puisque face à Challans, les Angevins sont tombés face à une solide formation vendéenne. Au terme d'un match très disputé, ce sont finalement les locaux qui ont eu raison des hommes de Sylvain Delorme en s'imposant toute fin de partie 77-74. Pas d'inquiétude pour autant pour les Angevins qui restent leaders de la poule A de N1. Et on parlera évidemment de toute l'actualité de l'EAB avec notre invité Karim Gourari. Du côté de l'UFAB, pas de match cette semaine, c'était la trêve internationale, trêve à laquelle le coach angevin David Gauthier a pris part en tant qu'adjoint de l'équipe de France lors des deux matchs comptant pour les qualifications à l'Euro 2023. Le technicien de l'UFAB fait en effet partie du tout nouveau staff de Jean-Aimé Toupane, successeur de Valérie Garnier, à la tête des Bleus. Et puis côté Cholet Basket, les Maugeois avaient un gros défi qui les attendait à Monaco ce dimanche face à ce club d'Euroleague. Les joueurs de Laurent Villa ont pris un énorme bouillon et n'ont pas rivalisé avec les basketteurs du Rocher. Trop friables en défense et surtout en échec offensif, la note fut salée pour le CB, sévèrement corrigée 102 à 59 chez le vainqueur en titre de l'Eurocoupe.
Et la glace et les hockeyeurs n'échappent pas à la trêve internationale. Vous l'aurez compris, les Ducs d'Angers sont actuellement en légère pause. Ça va leur faire du bien après leur calendrier très chargé. On va revenir sur leurs deux dernières rencontres. Hein, vendredi 5 novembre dernier avec cette victoire 5-0 face à Briançon. Et puis le jour d'après, samedi 6 novembre, les Angevins réalisaient un énorme match. C'était en terre grenobloise avec une victoire angevine 4 buts à 3. Un très gros match puisque Grenoble est toujours premier de cette Ligue Magnus, mais qui était invaincu et qui avait réalisé autant de victoires que de matchs. Au niveau du classement, les Ducs d'Angers se placent tout de même à une très belle deuxième place. Et puis le prochain match, ce sera mercredi, donc ce sera dès demain, et ce sera la réception de Briançon. Briançon, qu'on le rappelle, on les a affrontés le 5 novembre et on les avait battus 5-0, je bafouille, en espérant que le résultat soit le même.
Et puis on va donc passer aux actualités internationales. On va parler Formule 1. Avant la fin de la saison, l'étau se resserre en tête du classement des pilotes. Ce dimanche au Brésil, une nouvelle passe d'armes a eu lieu sur le circuit de Sao Paulo entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Alors que l'octuple champion du monde partait à la 10e place après une pénalité reçue lors des qualifications, le Néerlandais, leader du classement des pilotes, a rapidement fait course en tête sur le bitume brésilien avant de se faire voler la vedette au 59e tour par son rival britannique. Un coup de maître orchestré par le pilote de Mercedes qui a fini par s'imposer en réalisant une très bonne opération au classement. Hamilton n'est désormais plus qu'à 14 points de Verstappen alors qu'il ne reste plus que 3 Grands Prix pour départager les deux rivaux.
Je ne sais pas si on peut réellement parler d'un coup de maître.
Au vu de
ce qui s'est passé ce week-end... Ça a soulevé quand même pas mal de polémiques.
Ouais. En tout cas, sur la course de dimanche, il y a eu le dépassement était assez.
Dans le combat pur.
C'était un beau dépassement de la part d'Hamilton.
Ça a été une belle bagarre.
On peut le reconnaître.
Ça a été une belle bagarre, mais après le dépassement, il est abusé puisque nouveau moteur avec facilement une vingtaine de chevaux comparé à celui de Verstappen. Donc c'était évident qu'il allait passer facilement.
C'est aussi Mercedes qui...
Voilà, Mercedes, comme souvent, qui joue avec le règlement. Et c'est à voir si au prochain Grand Prix, dès ce week-end, qu'il y a un nouveau Grand Prix, que tout le monde sera dans l'inconnu. Est-ce que ce nouveau moteur est plus performant? Est-ce que Bottas va avoir les mêmes performances aussi? Ça reste à voir, puisque là, sur ce Grand Prix-là, clairement... On en était loin, donc à suivre quand même. Et ça, quelque part, ça va être un tournant, peut-être bien ou peut-être pas bien pour le championnat.
Ouais, en tout cas, ce Grand Prix du Brésil qui réserve en tout cas une totale surprise. Il me semble qu'il reste 3 Grands Prix, 4 Grands Prix jusqu'à...
3 Grands Prix.
3 Grands Prix avant la fin de la saison.
Dont celui de ce week-end qui est inédit.
Ouais, donc ça relance complètement cette course au titre.
Seulement 14 points d'écart entre les deux pilotes.
Et donc, on va parler maintenant de football. On va parler très vite fait de la 14e journée de Ligue 1 qui arrivera ce week-end, puisqu'il y a quand même 3 matchs très intéressants que vous pourrez suivre. Monaco recevra Lille, Rennes recevra Montpellier. Et puis enfin, dimanche soir, pour clôturer cette belle journée de championnat, l'Olympique Lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille pour un match haut en intensité, on l'espère. Et puis donc, on vous a parlé tout au long de cette chronique de trêve international. C'est l'occasion d'évoquer l'équipe de France de football qui a fait carton plein samedi dernier face au Kazakhstan. Victoire 8-0 de l'équipe de France avec notamment un quadruplé d'un certain Kylian Mbappé. Il me semble que ça faisait depuis 1958 ou 68 que c'était pas arrivé.
Avec Juste Fontaine.
Avec un certain Juste Fontaine. Et donc par la même occasion, les Bleus se sont qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar qui se jouera en fin d'année 2022. Et on a déjà quelques noms, hein, quelques sélections qui se sont qualifiées. Alors en Europe, il y a la France, bien sûr, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, la Serbie, l'Espagne, la Suisse ou encore l'Angleterre. Évidemment, en zone Asie, le Qatar, hein, pays hôte de l'événement, est d'ores et déjà qualifié. Et le Brésil, côté Amérique du Sud, est également qualifié pour la compétition. À noter que l'Italie, championne d'Europe en titre, et le Portugal ne se sont pas qualifiés pour cette compétition et devront donc passer par les barrages.
Et on en parlera en fin d'émission. On va continuer avec le rugby, le 15 de France qui disputait son deuxième match de ce test d'automne après la victoire donc la semaine d'avant contre l'Argentine. Cette fois, c'était contre la Géorgie, un match qui n'a pas forcément rassuré le 15 de France qui s'est imposé tout de même assez aisément 41-15 avec notamment les essais de Mathieu Jalibert, de Penaud, de Movaca ou encore une fois de Penaud et encore une fois de Movaca en fin de match. En tout cas, c'est une victoire sur le papier a inquiété un peu les observateurs du rugby tout en évidemment assurant cette victoire face à un pays tout de même moins fort sur le papier. Et puis le gros choc, le gros rendez-vous, c'est évidemment à 21h samedi prochain, la France qui reçoit la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc c'était une préparation donc avant ce match face aux All Blacks, et en tout cas c'est une préparation face à la Géorgie qui a un petit peu été plus compliquée que prévu.
Oui, et puis j'en ai pas parlé quand on évoquait l'équipe de France, mais l'équipe de France joue ce soir face à la Finlande. Alors vu qu'on est déjà qualifié pour la Coupe du Monde, c'est un match qui a pas beaucoup d'enjeux, mais il était quand même important de le signaler. On va parler tennis maintenant avec le tournoi des finales ATP qui a commencé, donc c'était dimanche dernier, où on rappelle ça réunit les les 8 tennisman de l'année sur une compétition. Alors il y a des absents, il y a notamment deux gros absents, Rafael Nadal et Dominic Thiem, qui ne participent pas au tournoi. Et donc ça se joue, il y a deux groupes, donc ça se joue en trois matchs, il me semble.
Il y a deux poules et ça se joue en trois matchs.
Chaque joueur a trois matchs en phase de poule, et après ça va sur un tournoi à élimination directe. Aujourd'hui, on avait un très gros match entre deux des grands talents de cette saison, Medvedev qui affrontait Zverev, et c'est le russe Medvedev qui s'est imposé en 3-7, 6-3, 6-7, 7-6. Et puis demain, on aura deux très beaux matchs également avec Tsitsipas qui recevra Casper Ruud et le numéro 1 mondial Novak Djokovic qui affrontera le russe Rublev.
Très bien, c'est la fin donc de cette 1-2. On va tout de suite marquer une pause musicale. Je me retourne vers Cédric. Est-ce que tu es prêt pour la lancer ?
Ouais. On va écouter les LG avec le mix de Summer 2015.
La 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 la, hold on to me, la 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 la, don't let me go, la 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 la, who cares what they see, la 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 la, who cares what they know, la 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 la, first name is free, la 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 la, last name is dumb, la 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 la, choose to believe, la la la, in where we're from. Beating my drum like dum 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 day. I love the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling.
critiques, ça fout les boules, ouais, ça les dégoûte. Car nous on déboule comme des fous dans la foule, mais on passe assez cool. Toi tu restes à l'écoute, on se serre les coudes, ils nous prennent pour des fous.
J'suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme toi.
Sem, sem, sem.
Un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme
et
toi.
C'est brrr. Pas assez.
Badabalada, papaya. Benga, baila, comme ça qu'on
sème, sème, sème.
Me laisse pas solo, solo.
Conmigo.
Gangsta,
comme ça qu'on
sème. Eh mama, mama, eh mama, mama.
Som, som, som.
Bitch, but I have my money. Bitch, but I have my money. I'm too hot,
hot, hot, damn.
Hot, damn.
Found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. I'm in love with the coco.
Alors, le budget, comment
de tu... retour dans les studios de Radio G avec tout de suite une... Une petite annonce, on parlait de la chronique d'actualité sportive et on parlait du hockey sur glace. Cédric, tu as une petite info à faire parvenir à nos auditeurs.
Oui, ça a été annoncé sur les réseaux, soit aujourd'hui ou en tout cas il y a quelques jours. Puisqu'avec les nouvelles annonces qui ont été faites la semaine dernière par rapport au Covid... le port du masque maintenant est obligatoire à l'intérieur de la patinoire. Puisqu'avant, on pouvait rentrer donc avec le masque et ensuite l'enlever dans l'enceinte. Depuis le 10, il y a une décision via un arrêté préfectoral qui oblige donc le port du masque sûrement dans tous les lieux publics recevant du public.
Bah, espérons que ça s'arrête en tout cas à cette restriction-là et espérons qu'il n'y ait pas de jauge de spectateurs encore dans cette patinoire qui a vécu des moments bien tristes ces derniers mois. Alex, je vois que tu me fixes du regard, tu me fusilles du regard.
Carrément.
La parole est à toi.
Effectivement, on est donc avec Karim Gouhari, donc capitaine de l'EAB. On va donc passer à l'interview. Avant ça, donc, je vais essayer de te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Tu es né à Reuil, tu mesures 2m02, tu évolues au poste d'ailier ou d'ailier fort. Tu es formé justement à Reuil, au RAC.
On dit Rueil, excuse-moi.
Vas-y.
On dit Rueil.
Rueil, pardon. Ah oui. Oreilles, mais... c'est vrai que j'ai mal prononcé. Et donc, effectivement, c'est là où tu as joué tes premières minutes en National 1. Ensuite, à la saison 2014-2015, tu as effectué un passage en Pro B à Aix-les-Bains avant de retourner à Rueil. Et du coup, en 2018-2019, tu as rejoint Saint-Vallier, puis Angers en 2020-2021. Et déjà, est-ce que j'ai bon, à part sur la prononciation de Rueil ?
C'est parfait.
C'est parfait.
Exactement ça. Ouais.
Nickel. Du coup, d'abord, on va revenir sur ton début de carrière. Raconte-nous un peu comment t'es venu la passion pour le basket. Et puis après, comment tu es arrivé au monde professionnel ?
Très vite. Enfin, moi, j'avais mon grand frère qui joue au basket, à Rueil, justement. J'avais mon autre grand frère aussi qui faisait du foot. On était une famille très sportive et puis rapidement j'ai été vite attiré par le basket. Et depuis l'âge de 6 ans, j'ai commencé en mini-poussin à Rueil. Et j'ai gravi les échelons petit à petit jusqu'à faire mes premières années en senior. On était en National 3 à l'époque.
Ouais.
Et puis on a monté les échelons, National 2, on est monté en National 1 aussi. Et du coup, j'ai appris le basket à Rueil, en fait.
Mmh. Et en quelle année tu es devenu professionnel ?
En National 2, déjà, on s'entraînait tous les jours.
Okay.
Donc, c'était en 2009-2010, la première année. Et après, derrière, on est monté en 2010-2011, on est monté en N1. Donc, je dirais 2009, ouais, si on peut compter ça comme professionnel.
En 2014, tu as rejoint Aix-les-Bains. T'as fait donc, vous jouiez en Pro B à l'époque,
ouais,
c'est ça.
C'est ça.
Qu'est-ce que toi tu as retiré à titre personnel de cette expérience ?
C'était très enrichissant à tout point de vue. C'était déjà, c'était la première fois que je quittais un peu le cocon familial. Donc c'était une expérience de vivre loin de ses proches, de ses amis, sa famille. C'était par rapport à ça, c'était déjà compliqué au départ. Et puis sportivement, on passe d'un échelon aussi. On arrive dans une équipe où on est moins exposé, où je dois faire mes preuves. Parce qu'à Roubaix, j'avais des responsabilités. J'arrive en Pro B, j'en ai un peu moins. Donc voilà, c'est un contexte qui était totalement différent et qui m'a fait grandir humainement et sportivement.
Et du coup, après, tu es revenu à Rueil juste après. Pourquoi ?
Bah, l'été, après Aix-Maurienne, on était descendu. Okay. En fait, on était maintenu sportivement, mais la Ligue nous a fait descendre, nous enlever un point, du coup, pour des problèmes administratifs. Okay. Et à l'été, je cherchais un Pro B et je n'ai pas forcément trouvé. Je ne voulais pas retourner en N1 à la base. Et finalement, on arrive au mois d'octobre, et il faut quand même jouer. Et Rueil avait besoin d'un pigiste. Et au début, c'était pour 3 mois, et puis je suis resté toute l'année. Mmh. Donc, c'était un retour à la maison, quoi.
Et maintenant, on va faire un bond dans ta carrière avec le club qui nous intéresse, l'Étoile Angers Basket. Comment le club t'a approché pour te recruter ? C'était en 2020, c'est ça ?
C'était l'année dernière. C'était période de Covid. Ouais. Le Covid avait commencé. C'était pas évident. Le AB savait pas trop s'ils allaient monter, parce qu'à l'époque, ils étaient premiers. Ouais. Ils savaient pas s'il allait y avoir une deuxième phase de play-off ou pas. Mais à l'époque, Laurent Buffard m'avait contacté assez tôt. Dès le mois d'avril, il m'avait appelé pour rejoindre l'Étoile, en fait. C'était un projet intéressant pour moi et j'ai rapidement accepté la proposition de l'Étoile Angers Basket.
Et du coup, tu es arrivé dans un contexte, tu le disais, compliqué avec le Covid, une saison 2019-2020 arrêtée avant son terme, avec en plus le AB qui faisait des très bons résultats. Une saison en plus 2020-2021 qui a été disputée à huis clos. Ça n'a pas été difficile pour toi d'arriver dans un nouveau club, dans une nouvelle ville, dans ce contexte ?
Ouais, c'est sûr que ma première année à Angers, c'était pas le plaisir fou, quoi. On va pas se mentir. Déjà, les salles étaient vides. Ouais. On s'entraînait, on savait pas si on allait jouer le week-end parce qu'il y avait des cas tout le temps. Après, il y a eu des pauses de 2 mois. On a repris au bout de 2 mois, on s'est arrêté. Enfin, c'était pas évident vraiment de. Et puis, au-delà de ça, le contexte, la ville, tout était fermé. Donc, quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu connais pas
grand-chose. Il y
a le confinement. Ouais. Donc, la première année, c'était pas super, aussi bien sportivement qu'en dehors. Mmh. Mais là, depuis, je pense qu'on en reparlera après, mais je vais pas te spoiler.
Mais du coup, au-delà de ça, comment ça s'est passé ton intégration au club et à la ville ?
Super. Moi, j'avais la chance d'avoir Joanne Ratcheville, qui est responsable commercial et qui est maintenant responsable aussi de la Nationale 1. C'est lui qui m'a fait venir ici aussi. Donc, il y avait déjà un lien par rapport à ça. Et puis après, au-delà de ça, tout le monde m'a très bien accueilli, que ce soit les dirigeants, les bénévoles. Ça a été tout de suite top, quoi.
Est-ce que tu as compris facilement, on va dire, rapidement, que c'était une opportunité pour toi de te relancer ici à Angers ?
Me relancer par rapport à...
Par rapport à ta carrière, peut-être aller justement jouer la Pro B l'année prochaine ?
Je venais de Saint-Vallier, et Saint-Vallier aussi, c'était un gros projet. On avait pour objectif de monter avec l'équipe aussi, donc pas forcément me relancer, mais continuer dans cette lignée de jouer les premiers rôles en National 1 et espérer monter en Pro B.
Le AB, c'est un des favoris à la montée donc, cette année en Pro B, une des meilleures équipes du championnat de National 1. Mais l'année dernière, elle a été un peu plus compliquée. Vous avez été plus dans le milieu de tableau. Comment tu expliques cette saison un peu de moins bien, malgré une bonne fin de saison ?
Tout simplement, je pense que, comme on dit, la mayonnaise n'a pas forcément pris avec les nouveaux arrivés, ceux qui étaient là. On a eu des blessés, on a eu le contexte Covid. Il y a plein de paramètres qui font que l'année n'a pas été top. On a eu la chance de bien finir l'année. Bon, au mois de mars-avril, on a fini sur 6 ou 7 victoires d'affilée. Ouais. Donc voilà, ça a donné un petit peu le sourire, mais ça n'enlevait en rien le fait que la saison avait été ratée, quoi.
Et du coup, vous avez su rebondir pour cette nouvelle saison. Le mercato a amené plein de bons joueurs pour garnir l'effectif, avec donc sur le terrain des victoires. Ça a fait du bien du coup de connaître une bonne période de victoires comme ça, si on compte évidemment la bonne fin de saison.
Il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison. Laurent est parti, il y a Sylvain qui est arrivé, le coach. De cette année, de l'année dernière, on n'était plus que 3. Il y a eu beaucoup d'arrivées, l'effectif a été rajeuni. Ça fait du bien de repartir comme ça avec des victoires.
Tu te sens bien, toi, dans cette équipe, justement, avec plein de bons joueurs?
Ouais, c'est top. On prend du plaisir, je pense, à l'entraînement. On travaille beaucoup, on s'entraîne beaucoup. Mais je pense qu'on voit tout le monde prendre du plaisir à jouer dans cette équipe.
Il y a eu un changement de coach, tu le disais à l'intersaison. Qu'est-ce qui a changé dans les méthodes de management et de coaching depuis l'arrivée de Sylvain Delorme?
Je dirais que on passe plus de temps à la salle. Okay. Tout simplement, Sylvain est un peu plus exigeant avec les joueurs. C'est un style de jeu totalement différent. Il se base aussi sur. Le recrutement a été fait dans ce sens-là, avec beaucoup de jeunesse, beaucoup d'intensité, que ce soit à l'entraînement et en match. Et la grosse différence, elle se fait sur ça surtout. Quoi.
On a peu parlé de la bonne performance de votre équipe en Coupe de France contre Paris, mais vous êtes passé vraiment tout près d'un sacré exploit. Comment tu expliques ce supplément d'âme que vous avez eu en deuxième mi-temps, notamment, pour dominer une équipe quand même de Betclic Elite?
Je pense que en première mi-temps, on les a trop regardés jouer, on les a un peu trop respectés. Et puis, dès qu'on s'est mis un petit peu en place et qu'on jouait sur nos valeurs, et ben, on les a fait douter. Derrière, ils n'étaient pas très, très sereins. Je crois qu'on était devant même dans le dernier quart-temps. On était à plus 5. Et on a mis tellement de gomme pour revenir qu'à la fin, on a fait beaucoup de mauvais choix. Et l'expérience adverse a été bénéfique.
On va revenir sur le championnat. L'Étoile Angers Basket est leader de la poule A avec donc 10 victoires et en 12 matchs disputés. Est-ce que c'est un début de saison qui est rêvé pour vous? C'est un début de saison parfait?
Parfait non, parce qu'on a perdu deux fois. mais quand on prend du recul par rapport aux deux défaites, on perd deux fois de très peu. Une fois après prolongation d'un point et une fois de trois points à l'extérieur. Dans des salles chaudes. Si on nous avait dit en début de saison qu'on sera à 10-2 au bout de 12 journées, je pense que tout le monde aurait signé. Quoi. Ah ouais. Donc voilà, après c'est sûr qu'en tant que compétiteur, on est frustré d'avoir perdu ces deux matchs. Mais voilà, on est premier pour l'instant et c'est bien pour nous. Quoi.
Vendredi, il y a un gros match qui vous attend contre Rueil, votre dauphin au classement. Comment vous préparez actuellement ce match?
On prépare le match comme d'habitude. Hein. On se concentre beaucoup sur nous. C'est un match comme un autre, entre guillemets. Ça reste le dauphin, ça reste une équipe de N1. Et nous, on est à la maison, il faut continuer à gagner. Quoi.
Est-ce que tu penses que c'est déjà un match décisif?
C'est pas un match décisif, mais c'est un match important dans la perspective de la deuxième phase. Parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais en deuxième phase, on garde les résultats des cinq premières équipes.
C'est ça.
Et je pense que on a quand même des chances d'être tous les deux en deuxième phase ensemble. Donc c'est un résultat qui compte double, entre guillemets.
Ouais, il y a un gros enjeu, en plus de peut-être envoyer un message au reste de la poule en disant le second, il vient à Angers. Et puis,
c'est surtout continuer notre dynamique de victoire et au-delà du fait d'envoyer un message, c'est surtout rester leader, continuer à rester invaincu à la maison et continuer à prendre du plaisir tous ensemble.
Pour toi, ça va être particulier, c'est ton club du coup formateur. Comment tu abordes ce match à titre personnel?
Ça fait un petit moment que je les joue maintenant. J'ai déjà joué deux fois. L'année dernière aussi, c'est sûr, c'est toujours un match particulier, même si je connais de moins en moins de monde, parce que le coach a changé, s'il est encore dans les managers généraux. Je connais l'assistant, je connais quelques joueurs aussi, mais maintenant c'est un match comme un autre, même si ça reste spécial, forcément. C'est plus à domicile, quand on joue à Rueil, que
c'est particulier.
C'est particulier peut-être, parce que j'ai grandi là-bas.
Et du coup, ce match, ça va être le dernier match aller de la première phase. Quel est le bilan après un tiers de la saison, que ce soit dans le jeu, le bilan global de l'équipe? Tu penses que vous avez les épaules pour aller en Pro B?
Oui, je pense. En tout cas, le premier tiers de saison, il est positif. Que ce soit dans le jeu produit, le plaisir qu'on prend nous et je pense qu'on donne aussi. Les supporters doivent être contents de ce qu'on produit. Et puis en termes de résultats, je pense qu'on est tout en haut. Donc forcément, on ne peut pas nier le fait que le début de saison est réussi pour l'instant, je pense.
Et pour le futur, est-ce que tu te vois rester à Angers plus longtemps?
Je suis en fin de contrat au mois de juin.
Ouais.
Donc pourquoi pas.
Il n'y a pas de prolongation qui est prévue
pour l'instant.
Pour l'instant.
Tu veux rien Quelle dire. Belle question, Alex.
Les gars, est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité?
Bah, ça a déjà été évoqué, mais justement, voilà, c'était comment tu ressentais le. C'est vrai qu'en plus, en étant capitaine, étant leader et revenir où tu as commencé un peu ta carrière, c'est vrai que ça doit toujours être un peu spécial ce match, même si tu as l'habitude de jouer. Donc, du coup, bah, tu as quand même bien répondu voilà, à ce que, t'as, ouais, ce que sûr, ça t'apportait et ce que tu allais ressentir. Mais dans la saison, est-ce que tu as d'autres matchs aussi qui te tiennent à cœur d'aller les chercher et d'aller chercher la victoire?
Non, moi j'aime beaucoup les salles où il y a beaucoup d'ambiance en fait. Je trouve ça vraiment sympa, comme à La Rochelle, à Chaland, où j'aime beaucoup ce genre d'ambiance. Puis on sort d'une année pas terrible en termes de Covid où les salles étaient vides. Donc retrouver ça c'est particulier, mais j'ai pas de salle particulière que j'affectionne, hormis chez moi à Harvey. Mais...
Et puis bon, quand même la salle d'Angers. Hein.
Oui, ça c'est évident.
Moi je voulais qu'on parle de ton. Du fait que tu sois international, parce que tu es international, donc marocain. Depuis quand tu joues pour le Maroc?
Bon, mon histoire avec l'équipe nationale a été un peu... enfin, il y a eu pas mal d'années vides. J'ai commencé en espoir avec eux. J'ai fait quelques tournois avec eux. Après, je suis passé chez les seniors rapidement. J'ai fait un tournoi amical en Jordanie. Et puis, l'organisation, on ne va pas se mentir, dans les fédérations africaines, c'est compliqué. J'avais pas fait de. Enfin, ils m'avaient jamais rappelé, quoi. J'étais passé un peu sous les radars. Et puis dernièrement, on m'a rappelé pour faire les qualifs à la Coupe du Monde dans un premier temps.
T'as été en Égypte, c'est ça?
En Égypte, c'est ça. On n'a pas réussi à se qualifier. Derrière, en Tunisie, on n'a pas réussi à se qualifier. Mais dernièrement, on a fait aussi les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique, pour lesquels on n'a pas non plus réussi à se qualifier, parce qu'il y avait un changement de génération. Enfin, il y avait une génération qui était très belle, qui était un peu vieillissante. On a eu du mal à trouver cette passation de pouvoir entre guillemets entre les jeunes et les anciens. Du coup, il y a un peu moins de résultats actuellement, mais c'était malgré tout des expériences formidables en fait, de représenter mon pays. C'était vraiment en plus un autre basket, sportivement aussi, c'est enrichissant. Donc non, c'était vraiment des belles expériences. Et j'ai hâte d'y retourner.
Oui, et justement, il y aura d'autres échéances à venir.
Pour l'instant, il n'y a rien de prévu parce que, bon, comme on n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique, on doit passer par les éliminatoires pour se qualifier à la Coupe d'Afrique. Enfin, des éliminatoires pour se qualifier. Bon, c'est un gros bordel. Quoi.
Parce qu'elle aura lieu quand, la Coupe d'Afrique?
La Coupe d'Afrique est passée. Là, il y a les éliminatoires à la Coupe du Monde, mais on n'y est pas du tout parce que déjà, on n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Okay. Donc pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation. Peut-être l'été prochain, je pense qu'il y aura des éliminatoires. Pour essayer d'accéder aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique.
Ok, donc ce sera un beau parcours du combattant.
Ouais, c'est
un objectif pour toi de disputer une compétition majeure avec le Maroc?
Ouais, j'aimerais bien. C'est devenu un objectif, en fait, de faire une compétition, que ce soit Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Si je fais une Coupe d'Afrique, ça serait formidable. Ouais. Mais ouais, bien sûr, ça sera mon objectif.
Ouais. Ouais, bon, je pense qu'on te verra à Paris 2024.
Pourquoi pas? Faut croiser les doigts. Mais... Ouais,
très ambitieux.
Ouais, très ambitieux. Il faut l'être,
On va passer à la deuxième pause musicale. Cédric, est-ce que tu es prêt?
Oui, c'est prêt.
Comme d'hab, c'est prêt, magnifique.
Voilà, on va aller un peu du côté de l'équateur. on va aller chercher un peu le soleil aussi par ces temps. Soleil qu'on trouve généralement aussi au Maroc. Hein,
ouais,
tu le vois pas le soleil, Cédric, là dehors?
Bah, il fait un petit peu.
Alors, le soleil est caché par la nuit.
On va écouter un des tout premiers morceaux de Shakira, Sekire Semata. We'll be right back.
De retour dans les studios de Radio G, il va nous rester un petit quart d'heure. Et puis tout de suite, messieurs, je crois que c'est le moment de passer à l'interview ping-pong, n'est-ce pas, Cédric ?
Ouais, on a trouvé enfin un nom pour la rubrique. C'est vrai que, au vu du concept, en fait, le nom était déjà
tout trouvé.
Donc voilà. Donc on rappelle le principe du ping-pong, c'est des questions rapides, souvent à deux choix. Donc la première question, douceur angevine ou soleil marocain?
M'en voulez pas, mais soleil marocain.
Non, mais on comprend.
On peut comprendre.
On peut comprendre.
Alors, on va rester un petit peu dans le basket. Chicago ou Lakers?
Plus Chicago, ouais.
Chicago époque Michaels?
Ouais.
Forcément, comme beaucoup.
Est-ce qu'il y a une autre équipe de NBA que tu suis?
Non, pas vraiment. Je regarde plus quelques joueurs particuliers, mais j'ai pas d'équipe particulière que je suis à fond.
Ok.
Je regarde les résultats, mais pas.
Pour tes jours de repos, t'es plutôt casanier, rester à la maison devant une série ou jouer à la console, ou aller découvrir un peu la région, sortir, voir des amis, restaurants, ciné?
J'ai une petite fille, donc faire des séries les jours off, c'est pas possible, c'est en général, donc elle demande un peu de temps. Mais non, on essaie d'aller se balader en ville ou dans les parcs. Je connais tous les parcs d'Angers, hein, donc c'est plus ça.
D'accord. Max, Alex,
on se projette dans quelques années, finale de Jeux Olympiques, France-Maroc, tu supportes qui? Tu n'es pas joueur, hein, tu supportes qui?
Ah, bien joué. pour avoir joué avec le Maroc, je dirais le Maroc, mais c'est compliqué, je dirais. Mais bon, si ça arrive, franchement, j'espère y être déjà.
C'est pour ça que j'ai dit tu n'es pas joueur. On est dans plusieurs années.
Ouais, non, je serai pour les deux équipes.
Ah bah. C'est ça. Donc tu veux pas choisir?
Non,
il a le droit. Hein.
Le cœur est divisé. Il a le choix.
C'est le concept. Hein. Justement, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais t'as suivi un peu le basket au JO, aussi bien en street qu'en basket classique?
Ouais, en 3-3.
Ouais, en 3-3, ouais.
Ouais.
Du coup, t'as pensé quoi de ce tournoi?
C'était intéressant d'avoir du 3-3 ou les deux.
Bon, les deux.
Intéressant. En plus, on a fait un beau parcours, en tout cas dans le 5-5, que ce soit chez les filles ou les garçons. Après, dans le 3-3, on était forcément un petit peu plus déçus du résultat des filles, parce qu'elles étaient un petit peu, pas favorites, mais on espérait au moins une médaille. Donc, c'était un peu décevant, mais je pense que c'est un sport qui a de l'avenir pour la prochaine Olympiade.
Et si tu avais la possibilité, c'est une discipline, le 3-3, qui t'intéresserait?
Non. Non.
T'as testé un peu ou pas?
J'ai déjà essayé, mais ça m'a jamais trop attiré. Ouais. Ça va trop vite, moi. On prend de l'âge, donc non. L'été, on se repose un peu.
On va quitter un peu le basket. Est-ce que t'as le permis de conduire?
Oui.
T'es plutôt petite voiture sportive qui se faufile partout, ou alors plus grosse berline, assez imposante pour être vue bien, bien comme il faut sur la route?
Non, peut-être pas pour être vu, mais pour être dans le confort, quoi. Je suis grand, donc...
Oui, c'est vrai qu'à 2,02 m, trouver une petite voiture à sa taille...
Ah, c'est sûr que la Smart...
C'est plus compliqué, ouais.
Faut le modèle décapotable. Hein.
Ah, et encore.
C'est une question de confort. Ouais. Ouais.
Écoute, une autre question, plus pour du coup sur le basket. Tu préférais disputer les JO ou la Coupe du Monde à choisir?
Je pense les JO.
Ouais.
Les JO, il y a quand même tous les autres sports. Je pense que c'est une expérience incroyable à vivre. Donc forcément les JO, même si je ne serais pas contre une Coupe du Monde, hein, mais les JO, forcément, je pense que pour les sportifs en général, à part peut-être pour les footeux, mais les autres sports, toutes les autres disciplines, c'est entre guillemets le Graal, quoi.
C'est le côté rareté qui te fait choisir ou...
Bah, chez nous aussi, je crois que c'est tous les 4 ans, donc la Coupe du Monde.
D'accord, et donc, du coup, oui, c'est vrai que ça...
Ouais, donc ça revient.
Ça fait pas trop de différence, mais ouais, c'est plus pour le, on va dire, l'ensemble,
ouais, c'est ça, ouais.
Le côté village olympique, des choses comme ça. Mm. D'accord.
Est-ce que vous avez d'autres questions?
Je pense qu'on a fait le tour de ce ping-pong, à moins que vous voulez
relancer. Une petite question qui me vient à l'esprit. La veille de match, est-ce que tu as une routine alimentaire? Est-ce que tu manges tout le temps la même chose ou pas du tout?
Non, veille de match, non.
Je sais pas, un plat type?
Non, le jour de match, je mange des pâtes,
ouais.
Comme tout le monde, je pense. Mais veille de match, non, je... Pas vraiment de routine particulière.
Tu fais gaffe quand même.
Ouais, je vais pas me faire une raclette.
Tu manges pas 3000 calories en un repas.
Eh bien, voilà, c'était peut-être la dernière question, Cédric, non ?
Ouais, pour moi c'est bon, je pense qu'on peut conclure cet échange.
Effectivement, donc merci Karim d'avoir été avec nous. On te souhaite bonne chance pour la fin de saison et puis ce match surtout qui arrive, ce gros match. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre, du coup, c'est à Jambouin, c'est le match à nous.
C'est à Jambouin, ouais, c'est vendredi à 20h.
Il faut ramener du monde pour faire du public.
Exactement, il y a de plus en plus de monde à la salle, donc c'est vraiment agréable, en tout cas en tant que joueur. Ouais. C'est vraiment sympa de venir dans des ambiances comme ça.
Je pense que voilà, du coup, ça doit être comme pour le hockey, peut-être malgré que ce soit plus petit, mais prévoyez le masque au cas où, pour ne pas vous faire refouler, ce serait dommage.
C'est ça, merci à vous pour votre accueil, c'était sympa.
On enchaîne avec le football. Il nous reste à peu près 5 minutes d'émission. Max, on va faire un point sur ces éliminatoires. La France s'est qualifiée, donc c'était samedi dernier, 8-0 face au Kazakhstan, avec un quadruplé de Mbappé. Est-ce que vous avez regardé le match, les gars, ou est-ce que le Kazakhstan, ça vous a pas donné envie de vous mettre devant la télé ?
Alors non, je n'ai pas vu le match, de un parce que j'en avais un peu rien à faire, et de deux parce que j'étais sur la route,
donc très important
forcément je devais choisir entre le volant
et le Kazakhstan.
Et le Kazakhstan, bon le Kazakhstan est passé après quoi, mais non.
Tu ne l'as même pas écouté à la radio.
Non, j'en avais vraiment rien à faire de ce match.
S'il pouvait éviter d'en parler.
Je m'attendais à un score fleuve comme ça, peut-être pas autant, mais bon tant mieux, hein, si l'équipe de France peut retrouver un peu de confiance, et surtout Mbappé un peu de confiance... après cet euro un peu mitigé, tant mieux, voilà. De toute façon, on s'attendait à être qualifié, hein. Mais on l'a fait plutôt que prévu avec une très très grosse victoire, donc c'est cool.
Notamment Coman en piston droit, ça a été une bonne satisfaction parce que du coup, ça change d'un peu de Pavard qui était pas à son meilleur niveau, on va dire ça comme ça pour être gentil sur les derniers matchs. Sinon, au niveau de. Donc voilà, c'était la compo, c'était une compo à peu près type, donc en 3-5-2. Donc avec Coman en piston droit, Théo Hernandez en piston gauche. Il y avait Upamecano et Koundé en défense centrale, j'ai oublié le troisième cible, c'est Lucas Hernandez. Et puis le fameux trio Griezmann, Benzema, Mbappé, c'était Rabiot, Kanté au niveau du milieu de terrain. Et là, du coup, on va vous parler du match de ce soir qui a lieu en même temps. Donc peut-être que vous regardez le match et vous écoutez l'émission dans le même temps. Eh bien, merci de nous écouter déjà. Et puis, il y a eu beaucoup de changements dans cette composition avec notamment...
On aurait pu en voir plus.
Effectivement, on aurait pu en voir beaucoup.
On aurait dû en voir plus.
Et je pensais même qu'on allait en voir beaucoup plus.
Parce que ce match, on rappelle, compte pour du beurre, en tout cas pour la France, parce que la Finlande peut encore se qualifier pour les barrages. Donc, on a les entrées, notamment par rapport au 11 qui était là samedi dernier. Il y a Moussa Diaby qui remplace Benzema, Dubois qui remplace Coman, Tchouaméni qui remplace Kanté, Dean qui remplace Théo Hernandez et Kurt Zouma qui remplace son frère Lucas Hernandez. Une compo, effectivement, où ouais, les gars, il y aura pu avoir plus de turnover, notamment avec peut-être des joueurs qu'on voit pas souvent sous le maillot bleu, Matteo Guendouzi peut-être, ou d'autres noms comme ça.
Ouais, ça aurait pu être l'occasion de voir la première titularisation de Guendouzi, qui, au vu de ses perfs en club, le mérite. Et même, on aurait pu voir un changement de gardien pour ce match. Même si c'est vrai que Costil et Areola sont pas forcément dans les plans de Deschamps pour être second gardien dans les années à venir. On aurait pu le voir, Veretout aussi qui aurait pu être sur la feuille de match, Ben Yedder aussi. Je m'attendais à beaucoup plus de changements quand même. Ouais.
Moi, perso, j'enlève Griezmann et Mbappé déjà.
Bah, pour les faire souffler, oui.
Pour les faire souffler, simplement. Mais bon, au vu des déclarations de Deschamps, apparemment, il y a des clubs qui avaient demandé à ce que certains joueurs restent sur le banc de touche pour souffler en vue des échéances, je pense, Coupe d'Europe ou même Championnat pour certains. On voit bien que ça n'a pas été respecté, en tout cas. Je trouve ça dommage. On a un match gratuit. Limite, tu mets tous tes jeunes en vue de cette Coupe du Monde. Mine de rien, va arriver très vite, en plus. Donc là, on n'est pas à l'abri d'un accident tout con ce soir. Une blessure qui t'handicape jusqu'à la Coupe du Monde. Tu y perds ta saison. Le club, derrière, pour te relâcher, le jour où tu as besoin d'être convoqué en équipe de France, ce sera un peu plus compliqué. C'est dommage. Après, Deschamps est souvent là-dessus. Il fait jouer son équipe type et les enjeux d'à côté, hélas, ça lui passe au-dessus. Donc pour un match comme ça, je pense qu'il aurait fallu faire un turnover et puis laisser la chance aux jeunes. Quitte à se prendre une défaite, c'est pas grave, on est qualifié. Ça permettait de voir justement si des futurs remplaçants sont capables de tenir. Et puis, même pour, comme tu disais, pour le gardien, moi, ça m'aurait pas dérangé qu'il teste ces deux gardiens qui seront les potentiels troisième gardien. Au moins, ça permet de voir leur niveau en cas de souci des deux autres. Mmh. Et puis, même un peu de compétition dans le groupe, ça fait toujours aussi du bien pour. Pour chaque joueur, quoi. Ça leur permet aussi de se remettre en cause et de progresser, quoi.
Ouais, c'est sûr. Puis tu parlais d'un risque potentiel de blessure, sachant que le match est en Finlande, donc dans des conditions où les joueurs n'ont pas du tout l'habitude de jouer, ça risque de jouer sur les organismes des joueurs. Donc peut-être que, et on l'espère pas, hein, ça peut jouer sur certains coups, certaines blessures. Mais ouais, en tout cas, c'est sûr que ce sont des choix un peu étonnants de la part du sélectionneur.
Effectivement. Ouais,
justement, on peut te demander ton avis par rapport à ça, toi qui es sportif, et après, t'en penses quoi justement du fait que des fois il y a des turnovers pour que les joueurs puissent se reposer, et des fois il faut absolument qu'ils jouent,
Après, il n'y a pas beaucoup de fenêtres internationales, je pense, donc il a aussi, le sélectionneur a aussi peut-être besoin de se rassurer, entre guillemets, en ayant des joueurs clés à certains postes, je pense. Je sais pas, enfin, je connais pas trop le. Enfin, je suis le foot, mais je suis pas footballeur. Mais je me dis que, au vu de la rareté des fenêtres, il veut peut-être se rassurer en vue des prochaines échéances. Et en plus, je crois qu'il joue dans un nouveau système, donc peut-être assimiler les nouvelles choses. Ouais. Donc ça peut se comprendre aussi. Enfin, les deux avis se comprennent. Hein.
Mais par contre. Je pense qu'on risque de voir sur le terrain la rentrée des joueurs qu'on a cités, hein, plutôt Ben Yedder, Veretout, Guendouzi. Ouais. Si l'équipe de France mène assez tôt dans ce match, bon, on peut voir ses têtes plus ou moins fraîches en équipe de France arriver sur le terrain, quoi.
D'ailleurs, donc toujours 0-0 donc entre la Finlande et la France, le match donc qui va se dérouler tranquillement, qui va clôturer cette campagne de qualification à la Coupe du Monde dans la zone Europe. À noter également, il y avait deux gros matchs dans la zone Afrique, avec l'Algérie qui a fait match nul face au Burkina Faso, 2-2. Un match qui qualifie donc pour les barrages l'Algérie. Et puis en ce moment, il y a un Cameroun-Côte d'Ivoire qui est une belle affiche aussi, avec 1-0 donc pour l'instant pour le Cameroun, avec un but de Toko Ekambi. Et puis actuellement, le Maroc, Karim, gagne 2-0. Voilà pour ton information.
Ils sont déjà qualifiés, je crois.
Ouais, c'est ça, ils sont déjà qualifiés. Ouais,
donc... Je crois qu'il y a des barrages après en Afrique.
Oui, voilà, en fait, ils sont qualifiés pour les barrages. Ouais. Tous les premiers groupes disputent des barrages et après, ce sera pour la Coupe du Monde.
Ils sont toujours invaincus d'ailleurs, il me semble.
Je crois.
Voilà, donc.
Tout comme l'Algérie.
Un gros donc favori pour la qualification à la Coupe du Monde. Voilà, l'émission touche à sa fin. Est-ce qu'on a un générique?
On a le générique.
La question suspens. On a un générique ?
On a le générique.
Bah, très bien, parfait. On va pouvoir le lancer. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine à 20h, mardi prochain, donc, pour une nouvelle émission de Génération Sport.